Prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait de taille à lutter.
Un peu de zat.
On veut pas que du ciel descende, des cendres de mort et de fer.
Un peu de grève.
Pilote sur ton crève, de faim, de froid, de tout. Autour faire la grève.
Du gaz de schiste.
Exploitation de gisements de gaz de schiste.
Du logement. Du féminisme. Bon bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé de marquer un mot sport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent
et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, bonsoir, il est 19h et quelques brouettes et c'est l'heure du Canu Info en ce vendredi, je ne sais plus la date. Et donc 13, ah oui, vendredi 13, tout à fait. Et donc aujourd'hui, on va commencer par vous parler, on va faire un retour sur l'expulsion qui a lieu de l'Amphiz. Voilà, avec un guest invité sur place.
Après, on ira en national, on vous parlera de la lutte d'une trentaine de travailleurs sans papier qui travaillent pour Chronopost et qui demandent leur régularisation.
Et puis, on reviendra sur le prochain projet de réforme des retraites pour vous l'expliquer un peu et préparer les mobilisations à venir. Et sur la grève à la RATP qui a eu lieu aujourd'hui, c'est les transports à Paris.
Et puis, on a aussi une bonne nouvelle, mais pas que, ni coupable, ni Balkany.
Et ensuite, on vous parlera d'un rassemblement atypique, puisqu'il s'agit d'un rassemblement de bateaux en soutien aux migrants et aux migrantes.
Et ensuite, on vous dira quelques mots sur le plan national de gestion des matières et de déchets radioactifs.
Du côté de l'international, enfin, on ira en Grèce pour vous parler du quartier d'Exarchia qui a été attaqué.
Exarchia est attaqué toujours dans l'international. Il y a aussi une dérive identitaire généralisée de la Commission européenne.
Et enfin, on terminera par l'agenda, évidemment.
Un agenda de 19h03, le vendredi 13, ça fait peur sur Radio Canu.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus
smart. Avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Les yeux, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et
dans
vous
les
bouge en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes. En chantant résiste.
Et oui, il y a bien besoin de résister en ce moment. On a la chance d'avoir dans les studios ce soir Pierre, soutien de l'Amphiz. Et parce qu'on a envie de vous en parler de cet Amphiz qui a hébergé pendant plus de 20 mois 200 personnes au moins à Villeurbanne. Et on a envie de vous en parler cette semaine parce que cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé, Pierre ?
Alors, ce qui s'est passé cette semaine, bah, comme on le craignait depuis un certain temps, bah, l'Amphizette donc, a donc été expulsée mercredi en fin de matinée, donc à 11h. Et c'est une expulsion qui, heureusement, s'est faite sans de blessés, mais qui a été extrêmement violente parce que les habitants n'ont pas pu revenir récupérer leurs affaires et que les travaux ont démarré immédiatement.
Pour revenir un peu sur qu'est-ce que c'était ce lieu de l'Amphizette, est-ce que tu peux nous expliquer ?
Alors très rapidement, parce que vu que ça a duré 20 mois, on ne va pas y passer autant de temps, mais depuis bientôt 2 ans, ce bâtiment avait été ouvert pour héberger en fait un grand nombre. Il y a plusieurs centaines de personnes, on peut sans problème estimer à 400 ou 500 personnes en tout, de personnes qui sont passées à l'intérieur, avec des taux d'occupation, plus de 250 personnes ont cohabité en même temps dans cet ancien centre de formation des pompiers qui était situé à côté de QC au métro à Villeurbanne. Et qui est devenu en fait un lieu emblématique en fait de la lutte pour l'hébergement et pour la régularisation des sans-papiers au moins dans toute la région lyonnaise ou au niveau national.
Mais alors du coup, où sont partis, je crois qu'il y avait 150 personnes qui habitaient à l'Amphizette, en tout cas jusqu'à début septembre.
Alors il y avait plus de 150 personnes, oui, qui continuaient à habiter au quotidien, qui vivaient là, qui s'organisaient, qui travaillaient pour la grande majorité, et qui, en attendant, essayaient de survivre dans l'agglomération lyonnaise, et qui ont dû partir très rapidement, en quelques heures, ce mercredi.
Et du coup, depuis mercredi, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, qu'est-ce qui se passe depuis mercredi ? Alors, ce qui se passe, c'est, pour revenir, l'expulsion, c'est vraiment tout un... Enfin, il y a tout un... Toute une séquence qui a démarré donc samedi dernier en fait avec une dernière manifestation de l'Amphizette à la préfecture qui a demandé et qui a pu rencontrer en fait quelqu'un de la préfecture qui avait promis, vu qu'on savait l'expulsion imminente, une expulsion en fait avec des propositions de relogement, avec un travail d'accompagnement fait par l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Tout ce qui devrait en fait faire une expulsion à peu près correcte, un minimum responsable, un minimum humain. Et en fait, on sait, dans les faits, en fait, une fois de plus, toutes les autorités ont absolument, comme hélas, bien d'habitude, menti. Et en fait, on fait une expulsion sèche, en fait, en mettant tout le monde dehors de façon extrêmement rapide, extrêmement violente, en empêchant les gens. Seulement trois personnes ont pu retourner dans le bâtiment pour récupérer les affaires de l'ensemble des habitants. Et chacun escorté par quatre flics et qui a leurs affaires fouillées à la sortie, enfin, des conditions assez délirantes.
Oui, c'est ça, c'est parce qu'on rappelle du coup que c'était un lieu qui était squatté, mais qu'on ne peut pas non plus déloger des personnes qui habitent un bâtiment sans leur proposer une solution de relogement. En tout cas, avec la droit d'allo, il y a un droit au logement en France. Et où, du coup, la préfecture avait promis de reloger ces personnes.
Il y a deux droits en plus qui normalement s'appliquent à eux, comme tu viens de le rappeler, il y a le droit d'allo, et surtout la grande majorité de ces personnes sont des demandeurs d'asile et que l'État devrait en fait dans ses propres lois légalement loger. Il y a tout un système de cadavres, enfin des différents types d'hébergement qui existent, qui ont été mis en place, et qui fait que ces gens, toutes ces personnes auraient dû normalement être logées. Avant, donc, l'Amphizette n'aurait même par définition jamais dû exister en fait, sauf que une fois de plus. Les citoyens et les militants ont dû pallier à l'État et mettre en place ça. Et au moment de l'expulsion, la préfecture avait, dans sa grande malignité, avait promis d'héberger 8 personnes, et seulement sur l'ensemble des personnes présentes. Sauf que, en fait, la veille, en fait, vu que le squat existait encore, des familles étaient arrivées et avaient des enfants. Et donc, la préfecture a préféré reloger ces familles, qui sont évidemment prioritaires. Mais quand les 8 autres personnes habitant depuis des mois et des mois dans Fizet se sont présentés à la préfecture, alors que la préfecture leur avait quand même demandé de venir, et ils ont trouvé porte close et eux aussi se sont retrouvés à la rue.
Alors, de ce que j'ai compris, cette expulsion, elle a eu le mercredi à 11h, alors que ça faisait plusieurs jours que des soutiens se mobilisaient, mais étaient peu présents, du coup, puisque ça faisait plusieurs jours qu'on attendait, en fait, finalement, l'arrivée des flics qui n'arrivaient pas, et du coup, ils ont réussi à arriver à un moment donné où peu de soutiens ont pu se mobiliser pour être sur place à temps. Et depuis mercredi, où sont passées ces personnes ? Qu'est-ce qui se passe ?
En fait, en général, il y a un certain nombre de procédures qui sont mises en place par la préfecture ou par les autorités quand il y a dans des expulsions, notamment de bâtiments aussi importants qui concernent autant de personnes, notamment en fait, la mise en place déjà d'un hébergement pour toutes les personnes qui normalement y ont droit, la mise en place de gymnases pour au moins pallier quelques jours. Et au moins, normalement, en fait, sont prévenus l'ensemble des associations et des structures, le 115, la Croix-Rouge, pour apporter un minimum vital à ces populations-là. Sauf que pour des raisons qu'on ne connaîtra jamais, bah, la préfecture a préféré cette fois... Bah, aussi, elle est venue à 11h. D'habitude, ils viennent à 6h. Donc c'est pour ça que les gens faisaient un petit déj à 6h tous les matins et à 11h, tout le monde était au parti. Faut être honnête, c'est aussi une réalité. Et en fait, bah, aucune association n'avait été prévenue. Et on s'est retrouvés avec en fait 40 camarades qui n'avaient absolument aucune solution pour être logés quelque part à Lyon. Un grand nombre ont eu la chance, parce que d'autres squats avaient été ouverts auparavant, de pouvoir y partir. Mais il y a quand même une quarantaine de personnes, dont des familles avec enfants, qui se sont retrouvées en fait à attendre devant les cordons de CRS en attendant de trouver un endroit où dormir.
Et qu'est-ce qui s'est passé du coup après ?
Eh bien donc, il a démarré depuis ce mercredi un véritable odyssée en fait à travers tout Lyon, accompagné par les soutiens de l'Amphizette qui sont là depuis bientôt 2 ans. Et nous sommes allés frapper à toutes les portes disponibles. Donc évidemment, on a commencé par appeler la préfecture pour lui demander de simplement de faire son propre travail, ce qu'une fois de plus, elle a refusé. On est allé demander, on est allé voir la mairie de Villeurbanne aussi, parce que nous étions sur son territoire, et qui elle aussi nous a dit que par le biais de son maire, en fait, elle avait largement assez fait à ses yeux et que ces 40 personnes, elles n'avaient qu'à dormir à la rue et elles s'en lavaient les mains. Donc, par désespoir de cause, le soir même, en fait, nous sommes allés occuper l'église Sainte-Madeleine à Charpennes, sur la place Wilson, et qui a permis, en fait, enfin plus ou moins en forçant la main, mais l'église, en fait, nous a ouvert une salle paroissiale. Donc, ça a été aussi un grand moment où nous avons l'évêque Haute-Cillière de Lyon s'est déplacé, il nous a accompagnés, nous et l'ensemble du collectif, jusqu'à une salle paroissiale, sachant qu'après, ils sont quand même tellement bien organisés qu'ils se sont trompés de salle paroissiale, donc on a traversé Lyon dans l'autre sens, pour se retrouver en fait à environ 150 mètres du squat où on a été expulsé pour être logé au moins pour une nuit dans la paroisse Saint-Julien de QC. Donc à environ 150 mètres.
Donc ça c'était le mercredi soir.
Donc mercredi soir, donc on arrive après à jeudi matin, donc à partir de 10h en fait les personnes devaient être parties. Ce qu'il faut rappeler, c'est pendant tout ce temps-là, on a eu la chance en fait que le centre social de QC en fait nous ouvre ses portes pour au moins se poser, se reposer, poser nos affaires et qui nous sont d'un soutien logistique encore à l'heure actuelle vraiment vital. Et donc on a continué à chercher, vu que l'amphi Z était issu à la base d'une occupation à l'université, à l'amphi C, il y a 2 ans. L'idée s'est posée en fait en véritable désespoir de cause d'essayer de retourner à l'université. Université qui historiquement est quand même censée être un lieu au moins refuge et un lieu humaniste et sauf que une fois arrivé à l'université, il a fallu moins d'une demi-heure en fait à la présidente pour appeler, on a compté, il y avait plus de 24 camions de CRS et puis 5 ou 6 véhicules de la BAC et qui après est venu nous écouter poliment, enfin nous a gentiment expliqué qu'elle a appelé les forces de l'ordre et a démarré une chasse à l'homme en fait au sein de l'université. Donc nous sommes retrouvés en fait sur le mat d'eau derrière à Bron et où notamment une des femmes enceintes a commencé à faire une crise de panique. On avait la chance d'être accompagné par une infirmière qui a pu s'en occuper et on a par désespoir de cause continué à errer en ville pour finir par se répartir dans différents locaux associatifs en fait notamment la CNTSO qui nous a ouvert et puis une association de centre de la Guillotière qui nous ont permis de passer la nuit.
Donc ça c'était hier soir, j'espère que vous avez pu vous reposer un peu et du coup maintenant on en est où ?
Et bien là maintenant on en est où ? On a eu la chance en fait par un certain nombre de contacts en fait d'obtenir pour le week-end un logement jusqu'à lundi matin 6h en fait dans une structure d'accueil pour travailleurs mais qui est évidemment enfin ils ont la très très grande gentillesse de nous ouvrir quelques salles qui sont des salles de réunion, des salles de cours en fait et donc lundi matin nous devrons rendre les habitants vont au moins pouvoir se reposer, se laver pendant les 2 prochains jours mais lundi matin leur odyssée va pouvoir recommencer.
Donc toujours pas de solution pour ces personnes et comment est-ce qu'on peut faire si on a envie de vous apporter un soutien, est-ce que déjà c'est possible?
Alors un soutien, oui, il y a une multitude de formes, déjà simplement la façon la plus simple, enfin, c'est déjà de prendre des nouvelles, vous tenir au courant, nous envoyer des messages, enfin il y a une adresse mail qui s'appelle occupation au singulier @riseup.net. Donc là, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer. Vous pouvez communiquer par là ou à travers la page Facebook de l'Amphi Z. Vous pouvez simplement passer votre temps à appeler la préfecture pour leur demander d'appliquer leur propre loi pour que ces personnes soient logées. Et vous pouvez après, si vous connaissez des endroits où ces personnes peuvent être hébergées, soit en groupe, ce qui serait idéal, ou soit même en fait de façon individuelle. Évidemment, dans notre situation, absolument tout est bon à prendre. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous proposer, ou même à nous apporter des matelas parce que les gens dorment par terre et qu'il y a des couvertures à manger. Et on vous donnera toutes les informations nécessaires pour nous trouver.
Et du coup, on rappelle quand même l'indécence de cette situation, puisque ces personnes étaient logées dans un bâtiment depuis plus de 2 ans, s'auto-organisaient, et du coup, la préfecture a décidé unilatéralement de fermer ce bâtiment. Bâtiment qui est maintenant inaccessible, j'imagine.
On est passé à côté, c'est un véritable drame. En fait, ce qui était assez d'une tristesse infinie, c'est qu'au moment même de l'expulsion, les gens étaient en train de récupérer. Les rares personnes qui ont pu rentrer sont rentrées récupérer des affaires, et en même temps, il y avait en fait une société de nettoyage qui a appelé des sous-traitants, dont une bonne partie, je pense, étaient eux-mêmes sans papier. En fait, on commençait à rentrer dans le bâtiment, à jeter toutes les affaires des gens par les fenêtres. Donc on a vu en fait le temps s'accumuler en fait à travers les fenêtres du bâtiment, du premier au quatrième étage, des affaires volées, toutes leurs affaires personnelles, leur lit et leur papier. Et ça a duré toute la journée. Et là, il y a une montagne d'ordures et d'ébène en fait qui attendent devant le bâtiment.
Ok. Voilà, du coup, rappeler l'indécence de la préfecture, l'indécence de la métropole, l'indécence, j'imagine, des mairies aussi. Le soutien qu'on peut apporter à l'Amphizède et aux autres squats qui pallient actuellement au manque des métropoles, de la préfecture et de l'État plus généralement, autour de questions qui sont, on le rappelle, des droits, et notamment sur la question de l'hébergement. Et évidemment, si on soutient les collectifs qui s'organisent pour pallier aux missions de l'État. Et merci d'être venu témoigner de cette situation. On vous souhaite évidemment tout le courage qu'il faut, et surtout, on espère que le soutien se fera nombreux et se fera entendre des différentes manières, comme tu le disais aussi, que ce soit matériellement, humainement, auprès des personnes qui n'ont pas de logement, et vis-à-vis des structures dominantes, pour les obliger à bouger, au moins à laisser les structures auto-organisées continuer à vivre.
Canu Info.
Gendarmerie nationale, arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute la formation est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Rubrique.
Vive la République, vive la France.
Les mouvements sociaux.
Mais notre règne arrivera quand votre règne finira.
De la haine, donc tu la récoltes. Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les bottes.
Et on va aller à Paris pour parler encore de lutte des personnes sans papier. Cette fois dans un cadre particulier, c'est à Chronopost. En fait, il s'agit d'une trentaine de personnes sans papier intérimaires qui travaillent à Chronopost, du coup, qui a une filiale qui appartient à La Poste, entreprise détenue intégralement par l'État, et qui, depuis le 11 juin, sont en lutte pour demander à être régularisés et pour qu'on reconnaisse leur travail dans le centre de tri d'Alfortville, en Val-de-Marne. Les revendications de ces travailleurs, c'est des papiers pour tous, sans faire du cas par cas. L'énième rassemblement a eu lieu mercredi dernier, le 11 septembre. Il y en a plusieurs, du coup, qui continuent depuis le 11 juin, sans qu'il y ait forcément une grève continue, mais voilà, un mouvement qui vit par plusieurs moments. Du coup, mercredi dernier, il y avait environ 200 personnes devant la préfecture du Val-de-Marne, à Créteil. Il s'agit, les personnes qui sont en lutte, c'est notamment des hommes jeunes qui viennent du Mali, du Sénégal ou de Guinée, et qui n'ont pas l'autorisation de travailler, qui sont donc employés dans des conditions d'exploitation. Parce que du coup, le code du travail, bien évidemment,
n'est pas appliquée dans leur cas. Du coup, ils accusent l'entreprise de les employer en toute connaissance de cause, du coup, d'être en connaissance de leur situation, via une cascade de sous-traitants. Parce que, du coup, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils sont placés en intérim par une agence de mission intérim qui appartient au groupe Europa, au sein de Derichebourg, mastodonte international spécialisé dans le nettoyage des services aux entreprises et aux collectivités, lui-même sous-traitant de Chronopost, chargé du tri de colis. Donc on n'y comprend pas grand-chose, sauf qu'en fait, il y a plein d'entreprises qui sous-traitent et que du coup, en fait, c'est compliqué de faire assumer la responsabilité à Chronopost ou à quiconque d'ailleurs. La mission du coup de ces personnes en lutte, c'est de décharger des camions postaux arrivant en centre de tri de la filiale du coup d'Alfortville, spécialisée dans l'express, la livraison rapide de colis. Ils trient ensuite les paquets, le scanner à la main, puis le répartissent dans les camions qui iront les distribuer. L'un des porte-parole de ce mouvement raconte que du coup la plupart des personnes embauchent à 3 ou 4 heures du matin. Les heures de nuit sont rémunérées comme des heures normales, alors que la majoration légale du travail de nuit peut aller jusqu'à 30%. Et les heures supplémentaires sont pas payées. Du coup, ces personnes travaillent dans un travail quand même très usant physiquement. Aux blagues sont garanties en cas de maladie et d'accident de travail pour 600 euros par mois. Donc dans une véritable situation d'exploitation dans laquelle, évidemment, ils ont du mal à poser un rapport de force. Bah, c'est ce qu'ils essaient de faire actuellement. Bien évidemment, Chronopost se cache derrière les nombreux sous-traitants en disant qu'il y a eu des nombreux contrôles et qu'ils n'ont jamais révélé de dysfonctionnement. Et que s'il y a une responsabilité, c'est ailleurs et pas chez Chronopost. Faut quand même rappeler que, pas Chronopost, mais la Poste même, a déjà été sévèrement condamnée dans le passé pour un abus de sous-traitance à Issy-les-Moulineaux. Et ça, c'était suite à la mort d'un livreur, Seydou Bagaga, qui était tombé dans la Seine alors qu'il livrait des colis et qui travaillait depuis 15 jours pour une société sous-traitante sans contrat de travail ni salaire et sans être déclaré, au motif qu'il était encore en formation. Et la justice enquête actuellement aussi sur des faits similaires entre 2014 et 2017 en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. En mai dernier, un manager de la Poste confiait à Mediapart que cette pratique de ne pas déclarer tous les sous-traitants était régulièrement tolérée dans nos centres. Voilà, du coup, pour revenir au mouvement actuel, il y a eu une délégation qui a été reçue par la préfecture mercredi dernier avec des revendications simples, être reconnus comme des salariés titulaires de Chronopost et que leur mois de travail puisse être pris en compte dans leur demande de régularisation qui nécessite de présenter 24 fiches de paye sur 3 ans. Et du coup, voilà, de sortir de cette double précarité au niveau administratif et au niveau de précarité du travail. Mais pour l'instant, au bout de 3 mois de mobilisation, le message de salariés en lutte n'a encore réellement ébranlé ni leur employeur, ni ses donneurs d'ordre. Pour continuer à se faire entendre, le prochain rendez-vous est fixé mercredi prochain, 18 septembre, devant le siège national de la Poste à Paris. Si vous êtes dans le coin, allez-y.
Et oui, on a envie d'enchaîner un peu sur ces mobilisations et sur ce droit du travail qui est de plus en plus bafoué. Enfin, je ne sais pas si on peut dire de plus en plus, mais qui est en tout cas toujours aussi bafoué. Et on a envie un peu que ça change. On espère en tout cas que ça va changer. On a envie aussi, en l'honneur de la grève massive qu'il y a eu à la RATP aujourd'hui. On a peut-être envie de vous parler du collège Henri Barbusse, dont on vous a parlé ces 2 dernières semaines, qui s'est mis en grève dès la rentrée. Il y a aussi, par exemple, à l'hôtel Ibis, des femmes de chambre qui sont en grève depuis 55 jours à Batignolles. Tout ça pour des patrons qui ne respectent pas le code du travail. Et du coup, pour tout ça, on a envie de vous faire un petit moment pédagogique dans ce Cagnu Info pour vous expliquer la réforme des retraites qui s'annonce et le principe des retraites par points. Comme ça, vous pouvez nous répondre la prochaine fois qu'on sera en manifestation avec vous contre cette nouvelle loi des retraites et qu'on vous demandera pourquoi. Si les gilets jaunes ont permis un ralentissement du programme de réforme des retraites prévu par le gouvernement, il ne faut pas s'y tromper, il n'est pas passé à la trappe. Et il est bien revenu cette semaine dans les déclarations notamment d'Edouard Philippe hier. À chaque mandat, c'est la même chose, la retraite est un gros pépin pour les libéraux. En effet, elle coûte apparemment cher, très cher dans le budget de l'État. En fait, environ 294 milliards d'euros et 13% du PIB.
Alors, plutôt que de renier des sous là où ils se trouvent, plutôt que de cesser ses cadeaux au patronat, toujours aucun retour de l'ISF, hein, par contre 5 milliards d'euros pour la French Tech et les start-uppers. Tous les gouvernements ou presque ont tenté de réformer les retraites. En 2003, mené par Fillon, avec l'allongement de la cotisation des retraites. En 2007, le mandat Sarkozy s'attaque à la retraite des cheminots. En 2010, encore un allongement de la durée de cotisation. À chaque fois, ces attaques patronales ont donné lieu à des mouvements massifs. Cette fois-ci, ce n'est plus l'âge de la retraite qui est directement attaqué, mais un changement de système. Un système non pas par répartition, mais par points. Les raisons de ce changement sont évidemment d'ordre financier et la conséquence sur notre pouvoir d'achat sera violente. Paradoxalement, c'est dans Le Parisien qu'on a trouvé un bon outil de propagande pour lutter contre cette réforme. Eh bien écoutez, je vais vous lire ce que j'ai trouvé dans un graphisme du Parisien. Ça nous explique très facilement que pour quelqu'un qui va partir à la retraite en 2025, on n'aurait qu'à imaginer qu'il serait né en 1961, eh bien si c'est un salarié non cadre du privé, donc cette personne qui va partir à la retraite en 2025, elle va toucher 72,5% de son dernier salaire. Mais pour une personne qui est née en 90 et qui partirait du coup selon la prochaine réforme en 2055, elle va toucher que 55,8% de son salaire. Donc on voit, pour un salarié non cadre du privé, on passe de 72,5% de son dernier salaire à 55,8% de son dernier salaire. Si on prend par contre quelqu'un qui est fonctionnaire, allez, on dit toujours que les fonctionnaires, ils gagnent plein d'argent. Eh bien quelqu'un là, eh bien, qui serait née en 61, qui part à la retraite en 2025, elle va toucher 64,1% de son salaire. Mais quelqu'un qui serait née en 90 et qui est fonctionnaire de la catégorie B, elle va plus toucher que 54,4% de son salaire. Vous vous rendez compte, c'est quasiment la moitié de son dernier salaire. Enfin, si on prend un employé du SMIC, elle est up aujourd'hui, enfin en tout cas s'il part à la retraite en 2025, il va toucher 81,6% de son dernier salaire. Mais si... il est né en 90 et qui partirait à la retraite en 2054, il toucherait 64,8% de son salaire. Qu'on se rend compte, à chaque fois, c'est 20% hein, d'écart entre la retraite touchée par une personne qui partirait à la retraite en 2025 et quelqu'un qui partirait à la retraite en 2054. C'est énorme, 20% de son dernier salaire. Ouais, là, je pense. Et donc ces chiffres, d'où est-ce qu'ils sortent? Alors, du Parisien, certes, mais surtout, ils sont tirés du rapport Delevoye, peut-être un nom qu'on va retenir, publié cet été, et qui doit donc servir de base pour le projet de loi. Et donc ce rapport Delevoye fixe comme règle d'or la stabilité des dépenses et l'absence de déficit du système de financement des retraites. Or, le nombre de retraités devrait croître davantage que le nombre d'actifs. Donc, ça va être compliqué de garder ce point d'équilibre. Pour le garder, le rapport Delevoye préconise de jouer sur le montant des pensions, donc en les diminuant si besoin, et sur l'âge légal de repart à la retraite, c'est-à-dire de décote, qui serait calculé dans un premier temps à 64 ans au lieu de 62 actuellement. Allez, je vais refaire un petit truc un peu chiant, mais je vais vous rappeler aujourd'hui comment ça fonctionne les retraites, en tout cas les retraites des salariés du privé. Parce que c'est important de comprendre ça sur toute la mobilisation qui va durer dans les prochains mois sur cette question de retraite par points. Aujourd'hui, on a la retraite de base. La retraite de base, c'est ce qu'on appelle le système obligatoire par répartition. Donc c'est la retraite par répartition. C'est 50% du salaire moyen des 25 meilleures années de sa période d'activité. Et c'est ça qui va changer. On a la retraite complémentaire à côté, qui est le système obligatoire par répartition aussi. Et celle-ci dépend du nombre de la valeur de service de points acquis en cotisant à l'ARCO ou à l'ARGIC. Ça commence à devenir très très chiant. Mais en gros, vous avez sur, à la base, votre retraite, 50% de votre salaire moyen des 25 meilleures années. Et en plus que vous avez cotisé à un truc obligatoire avec votre travail. Donc ça, ça change un peu selon votre travail et selon si vous avez cotisé à l'ARCO, à l'ARGIC, quelles étaient un peu les conventions avec votre travail. Donc ça rajoute plus ou moins de points. Et enfin, vous avez la retraite supplémentaire, qui est un système facultatif par capitalisation et qui sont des systèmes individuels ou d'entreprise, type assurance vie. Et donc là, ça ramène à, c'est pas l'État qui vous garantit une retraite, mais c'est vous tout seul ou avec votre entreprise qui vous garantissez des sous pour plus tard. Les retraites de base et complémentaires, donc les deux premières, on rappelle, c'est 50% du salaire moyen des 25 meilleures années, plus que vous avez cotisé à l'ARCO ou à l'ARGIC, permettent aux retraités de toucher en théorie 75% de leur dernier salaire. Ce taux de remplacement a tendance à diminuer sous le coup des précédentes réformes. Le rapport Delevoye préconise de fondre les retraites de base et les complémentaires en un seul système à points. Et donc au lieu d'être calculé sur les 25 meilleures années, la retraite le sera sur toute l'activité professionnelle, tirant donc le montant des pensions vers le bas, puisque la majorité des personnes qui sont salariées gagnent plus en fin de carrière qu'en début de carrière. Ou en tout cas, c'est plus avantageux de prendre le salaire moyen des 25 meilleures années que de prendre sur toute votre activité salariée. Notamment, on pense aux petits boulots ou à des périodes qui peuvent arriver tout au long de la vie. On va gagner moins, on va avoir des salaires plus petits. Et voilà, donc grosse mobilisation à venir, comme on vous l'a dit historiquement, à chaque réforme des retraites, gros mouvement social, on n'en entend pas moins de ce printemps. Alors, Sud Solidaire, par exemple, appelle à la grève et à manifester mardi 24 septembre, qui est la journée nationale d'action sur les retraites, mais histoire de ne pas trop segmenter toutes les mobilisations, on rappelle voilà, qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont déjà en mobilisation, déjà en grève depuis l'été, qui continuent à l'être à la rentrée. On a parlé de Chronopost. Il y a des hôtels, par exemple à Paris, il y a la RATP aujourd'hui, on va vous en parler. Il y a aussi des grosses mobilisations qu'il y aura samedi prochain, 21 septembre, où il y a des appels à mobilisation à la fois autour du climat et à la fois autour des gilets jaunes. Et ça peut être aussi des bonnes convergences des luttes avec voilà, toutes les limites que ça peut avoir, mais en tout cas de lancer un nouveau mouvement. Mouvement donc qui a été lancé à Paris aujourd'hui, puisque aujourd'hui les travailleurs de la RATP ont débuté une grève pour défendre leur régime de retraite, qui sont du coup terrifiés à l'idée qu'un secteur stratégique puisse être la locomotive d'un mouvement d'ensemble contre les retraites. L'exécutif a de son côté ajusté son discours dans le but de déminer le terrain. D'ailleurs, j'ai un peu halluciné, hein, Jean. Il n'y avait rien sur la page du Monde à 18h sur cette énorme grève, alors que quasiment rien fonctionnait à la RATP aujourd'hui. Mais hier, jeudi, la veille de la grève massive des agents de la RATP, donc d'une ampleur inédite depuis plus de 10 ans, Édouard Philippe est longuement revenu sur la réforme des retraites. Son objectif, tenter de déminer le terrain des régimes spéciaux qui pourraient bien s'embraser et donner des sueurs froides au gouvernement. Le fond est clair vers la fin des régimes spéciaux. Du coup, ça c'est un des buts aussi de la réforme des retraites. Et pour cause, du coup, les contours de la réforme sur la question des régimes spéciaux sont bien définis. Ça dit en gros la disparition des régimes spéciaux qui, à quelques exceptions près, n'ont plus lieu d'être et qui auront encore moins de raisons d'exister dans 30 ou 40 ans. Du coup, ça se reconfirmé par exemple Édouard Philippe mercredi. Il précise que bien évidemment, le corps des métiers régaliens, à savoir notamment les forces de répression qui ont maintenu l'ordre, des classes dominantes à coups de mutilations et des milliers de blessés et de morts seront épargnés en partie, du moins en ce qui concerne les départs précoces à la retraite. Les agents de la RATP en grève contre la réforme des retraites, donc parce qu'eux, ils ne vont pas être épargnés. Si les articles de presse fustigeant à l'unisson ce qu'ils appellent d'avance une journée noire sont de légion, le fond des revendications des agents de la RATP est rarement évoqué, dans la presse en tout cas, si ce n'est pour le dénigrer. Il est vrai qu'une mobilisation de cette ampleur à la RATP donc est inédite depuis 2007. Cette année-là, il défendait déjà les régimes spéciaux de retraite. Et le gouvernement revient aujourd'hui à la charge. Dans un contexte de renforcement des attaques néolibérales, les régimes spéciaux sont pris pour cible. Chez les agents de la RATP, cela s'incarne par la fin du calcul des pensions de retraite sur les 6 derniers mois, ou encore par la suppression progressive des taux spécifiques sur les mesures d'âge à la retraite des agents sous statut. En clair, une liquidation de nombreux droits, acquis de haute lutte en contrepartie d'une vie professionnelle hachée, des horaires pénibles et des salaires bas, non sans effet sur la santé et l'espérance de vie des travailleurs. Ça rappelle très très fortement les mobilisations qu'il y avait eu autour des cheminots et des conditions de travail et de vie des cheminots et des cheminotes qu'on avait eu il y a 2 ans. Donc on voit déjà s'incarner cette réforme des retraites qui s'annonce. On voit déjà l'enjeu très concret de calculer sur les 6 derniers mois versus calculer sur toute une vie de carrière le taux des retraites. Et donc du coup, dans ce contexte, la RATP a lancé un plan, les agents de la RATP ont lancé une grève qui a été très suivie aujourd'hui. On ne peut qu'appeler toutes les entreprises du public et de privé à ne pas morceler les journées d'action, mais à faire front ensemble ces prochaines semaines contre une politique générale et de répression et antisociale du gouvernement.
On va faire front, mais ce soir, c'est quand même un peu la fête.
Canu Info fait la fête parce qu'il y en a un qui avait bien pensé à sa retraite. C'est qui? C'est Patrick Balkany. parce que Patrick Balkany, finalement, pendant toutes ces années, eh ben, il a piqué pas mal de thunes au fisc et pas mal de thunes à l'ISF, et du coup, en fait, finalement, pas mal de thunes à nous toutes et tous, par exemple, de l'argent qui aurait pu servir à rénover plein de bâtiments publics, qui aurait pu servir à héberger, je ne sais pas, par exemple, les gens qui étaient hébergés à l'ISF, ou alors, par exemple, qui aurait pu servir aussi à donner de l'argent justement pour renflouer les caisses de retraite, ou alors plein d'argent juste pour chacun, chacune d'entre nous qui travaillons toute l'année, qui ont plein de trucs toute l'année, et qui, bah, d'un autre côté, Patrick Balkany, bah, lui, il gardait la thunasse pour lui. Et alors, c'est rare quand même que le Canu Info du vendredi se réjouisse qu'une personne aille en prison. Et là, je suis désolé, mais Patrick Balkany dort ce soir en prison. Et ouais, et yeah. Bien, presque on serait peut-être un peu content que enfin, il se passe un truc contre Patrick Balkany. Et il n'y a pas que, parce que je dis Patrick Balkany, mais il y a Isabelle Balkany aussi, finalement, qui était son épouse et première adjointe. Et donc, du coup, bah ouais, Patrick Balkany a aujourd'hui été condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale et avec mandat de dépôt. Du coup, il a été incarcéré dès cet après-midi à la prison de la santé à Paris. Alors, rassurez-vous, il est dans un quartier un petit peu ok quand même pour personnes vulnérables. Alors, c'est pas un quartier VIP, mais c'est un quartier pour personnes vulnérables. Alors, c'est vrai que moi, Patrick Balkany, je le voyais pas hyper vulnérable comme ça, mais bon, bah, faut croire que, oui, bon, il y a quand même, voilà, il y a une justice, mais tranquille quand même, quoi. Et mais bon, du coup, voilà quoi. Isabelle Balkany, elle a été condamnée seulement à 3 ans de prison ferme, mais elle sans mandat de dépôt. Donc, du coup, a priori, elle va pas aller en prison pour de vrai. Et alors, pour rappel, bah, du coup, voilà, il y a à peu près 4 millions d'euros. Alors, ça, c'est ils sont accusés de juste 4 millions d'euros de picave, quoi. Mais vraiment, il y en a sûrement plus. Mais bon, voilà, là, on est sûr de 4. Et eux, ils disent, bah ouais, on a fait des fautes, mais pas 4 millions, on a juste fait des fautes. Mais bon. Voilà. Du coup, eh ben, les avocats quand même ont dit qu'ils allaient faire appel. Mais bon, voilà, on va voir ce que ça donne d'ici là. Mais si jamais vous aviez envie d'écrire à Patrick Balkany pour lui dire tout le bien que vous pensez de lui ou de l'administration pénitentiaire ou bien de la fraude fiscale ou au bien du grand capital, et ben vous pouvez écrire du coup à la prison de la santé. Je connais pas le numéro d'écrou, mais à mon avis, si vous essayez un truc comme 13-12, ça doit pouvoir marcher.
13-12, ça doit marcher. T'as juste oublié de dire quand même qu'ils ont aussi été condamnés tous les deux à 10 ans d'inéligibilité, ouais. Mais qui ne s'applique pas tout de suite parce que Patrick Balkany, il va aller en taule, mais il va rester maire fonctionnellement actuellement. Et elle va rester première adjointe. Donc pendant que lui sera effectivement emprisonné, c'est elle qui va diriger le conseil municipal. Ça commence mercredi prochain. voilà, donc ça reste relativement tranquille. Numéro d'écoute 13-12 à la santé.
Sans papier.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestin.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border. Et rassemblement un petit peu particulier appelé le 29 septembre parce que c'est un rassemblement de bateaux. Ce rassemblement est appelé par tout un tas d'associations de défense des personnes migrantes dont on est habitué à voir, donc Sea Watch 3, SOS Méditerranée, Open Arms, mais aussi la Société Nationale de Sauvetage en Mer, des pêcheurs et tout un tas d'autres personnes. Et alors pourquoi ? Et bien parce que, en fait, à la fin du mois de juillet 2019, un monsieur qui s'appelle Carlo Garantano, qui pêchait au large des côtes libyennes, et qui à 3h du matin, du coup, a découvert en fait une cinquantaine de personnes qui étaient à bord d'un canot qui prenait l'eau. Et du coup, ce monsieur est venu au secours de ces migrants et de ces migrantes, et il les a ramenés du coup vers la Sicile. Seulement, et ben, le capitaine du bateau et son père, l'armateur du bateau, risquent d'être condamnés à payer une lourde amende, voire à plusieurs mois d'emprisonnement pour avoir porté secours à ces migrants et migrantes. Et du coup, et ben, face à ça, le monsieur du coup, qui a secouru les 50 migrants et migrantes a appelé à ce rassemblement et du coup nous dit ça. Nous ne connaissons qu'une seule loi, celle de la mer. Nous ne laisserons jamais personne à la dérive. Nous le faisons parce que nous sommes tous des êtres humains. Ce n'est pas une loi écrite, c'est une loi écrite dans le cœur. Donc des personnes en mer, on n'en laisse jamais. Si j'avais ignoré ces appels au secours, je n'aurais jamais eu le courage de reprendre la mer. Aucun marin ne saurait rentrer au port sans avoir la certitude d'avoir sauvé ses vies. Je mentirais si je disais que je n'avais pas pensé au fait que j'allais peut-être finir en prison quand j'ai vu ce canot à la dérive. Mais je savais que ma mauvaise confiance serait pire que la prison. Ils peuvent faire tous les décrets de sécurité qu'ils veulent, mettre toutes les sanctions possibles et imaginables, nous saisir le bateau. J'aurais été hanté jusqu'à ma mort par ces cris désespérés. Nous ne sommes pas riches, nous ne sommes que dignement pêcheurs et nous n'avons rien d'autre, mais nous resterons dignement des êtres humains. Donc voilà, parce que ce monsieur a vécu ça, parce que plein d'autres monsieur ou plein d'autres dames dans le monde vivent ça, parce que parfois de loin on se sent impuissant et parce que là-bas sur place, ils ont besoin de sentir qu'il y a du monde qui partout qui les soutient, même symboliquement. Toutes ces associations appellent à un rassemblement le 29 septembre sur l'eau, avec des bateaux, avec tout ce qu'on peut, pour montrer notre soutien et tous et toutes nous rencontrer. Donc c'est rendez-vous le 29 septembre à 10h à l'Anse du Faro, avec vos bateaux, c'est à Marseille hein, bien sûr, et à 12h au Mucem à pied, si jamais on n'a pas de bateau. Mais si on n'a pas de bateau, il faut amener quand même ces banderoles maritimes. Voilà.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Et oui, nucléaire. Et donc là, en fait, je voulais juste vous dire quelques mots sur le fameux plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Pourquoi ? Parce que, en fait, va se clôturer fin septembre un débat qui est censé discuter justement de ce fameux plan national de gestion des déchets, des matières et des déchets radioactifs qu'on va appeler vulgairement PNG-MDR. Donc voilà, donc, c'est un truc qui a lieu tous les 3 ans. Et en fait, c'est un peu un débat mascarade, hein, parce que pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agit pas de vraiment. Alors déjà, vous voyez dans le titre, c'est gestion des matières et déchets radioactifs. Donc ils font la. En fait, on parle bien dans les deux cas de déchets, mais eux, ils font la distinction entre les matières et les déchets. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains déchets qu'ils veulent réexploiter. Donc en fait, ce fameux plan national, le PNG-MDR. A plus pour vocation à justifier du coup tout le plan d'action du nucléaire, c'est-à-dire l'espèce de cycle continu, à savoir exploitation de l'uranium, consommation de l'uranium, traitement de l'uranium. Donc c'est un plan qui est censé justifier toutes les mesures qui ont déjà été prises, déjà validées, à grand coup de débat public pour dire regardez, on en discute quand même un peu. Du coup, alors pourquoi j'en parle un peu ? Parce que en fait, faut savoir que dans les différents plans qui sont mis en questionnement, vous avez par exemple le projet, les fameux projets CIGEO, donc qui sont les projets d'enfouissement, qui sont discutés en regard des projets comme Astrid, donc Astrid, je ne sais pas si ça dit, si je sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, Astrid, c'est un projet de réacteur quatrième génération, donc type Super Phoenix, qu'on connaît un petit peu ici. Super Phoenix qui a été abandonné grâce à une lutte antinucléaire en 97. Mais en fait, les projets de type Super Phoenix n'ont pas du tout été abandonnés par le CEA. Donc, ils ont essayé. Alors, le projet Astrid a quand même été annulé fin août. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont pas remettre une pièce dans la machine. Et d'ailleurs, dans ce plan national de gestion des déchets radioactifs, c'est justement ça qui est discuté, savoir est-ce qu'on veut plutôt CIGEO, est-ce qu'on veut plutôt un réacteur de quatrième génération, est-ce qu'on veut plutôt réutiliser, voilà. Donc pas du tout, évidemment, on va pas du tout parler de comment on fait pour arrêter le nucléaire, ou est-ce que les centrales, est-ce que c'est dangereux, non, c'est, on a du combustible, on veut en faire des choses chouettes, et donc voilà. Donc par exemple, donc c'est soit les enfuir, soit les réutiliser à travers ce réacteur quatrième génération. Alors je veux quand même dire quelques mots sur ces réacteurs de type quatrième génération, parce que ça fait très moderne. Faut savoir que c'est des trucs qui datent déjà de quelques années, et on dit quatrième génération, puisque c'est des réacteurs qui vont consommer les, attention, ça c'est magique, les déchets des autres centrales nucléaires, à savoir le plutonium notamment. Mais ça, c'est évidemment, alors là, on se dit, mais c'est super comme solution, fonçons tête baissée là-dedans. Mais en fait, il faut savoir que c'est des centrales quand même extrêmement dangereuses, puisque Astrid, le S de Astrid, c'est sodium. Oui, vous rigolez et
comme
tout.
Comme le sel, quoi.
Voilà, pas vraiment comme le sel, justement. C'est beaucoup plus dangereux. Non, en fait, il faut voir que c'est des... vu le combustible, c'est des centrales qui nécessitent des fluides. La plupart des centrales nucléaires, le fluide qui est utilisé, c'est de l'eau. En l'occurrence, ce qui va remplacer l'eau, c'est le sodium. Et il faut savoir que le sodium est très réactif avec l'eau. C'est-à-dire qu'on a des millions de tonnes de sodium qui, à la moindre fuite, peuvent rendre le truc complètement explosif. Donc voilà, c'est ce type de réacteur que veut nous vendre EDF. Et puis sinon, si on ne veut pas, ben, du coup, on ira enfuir les déchets à Cigéo. Donc c'est le projet d'enfouissement des déchets donc, à Bure, qui lui fait le pari. Là, clairement, ils se disent, de toute façon, nous, les déchets sont mis dans des containers, des espèces de barils, et qu'on va enfouir. Et donc le truc, c'est qu'on sait que ces barils vont fuir. Et donc on se dit, on va les enfouir suffisamment profond dans le sol, comme ça, quand les barils vont s'éventrer, le temps que les matières radioactives diffusent jusqu'à la surface du sol, ce temps de diffusion, on fait le pari qu'il va être supérieur à la durée de vie des matières radioactives. Donc on se dit on va y foutre à tel endroit parce qu'on considère que ils font quelques études sismiques, ils se disent ça va pas trembler pendant plusieurs centaines de millions d'années. Donc ça, évidemment, on n'en sait absolument rien et c'est un pari fort risqué. Mais voilà, c'est un peu ce qui nous vendent. Il faut aussi savoir que les projets d'enfouissement, ils existent par exemple en Allemagne, il y a déjà eu des accidents extrêmement grave là-bas, d'incendies, etc. Donc, Donc, ce fameux débat, c'est pour discuter, est-ce qu'on veut de l'enfouissement à Cigéo ? Est-ce qu'on veut une centrale de type Astrid ? Et puis, avec tout ça, il y a bien sûr des alternatives qui sont des mélanges de composés de composés d'uranium, à savoir que une centrale nucléaire, elle utilise de l'uranium, tout le monde le sait, mais les filiales d'Areva, EDF, tout ça, ont trouvé une solution, une mi-solution, à savoir, on va prendre un peu de plutonium, on va le mélanger avec de l'uranium, et ça va nous créer ce qu'on appelle le MOX. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, le MOX, qui est MOX comme multioxyde, qui est un combustible aussi, qui est utilisé dans les centrales, donc dans pas mal de centrales en France. Je vous passe le nom des dans pas mal de centrales en France et aussi beaucoup au Japon. Et donc ça, c'est pareil, c'est donc la seule, d'ailleurs, faut savoir que le seul endroit où on fabrique du MOX, c'est où ? C'est à l'usine Melox du groupe français Orano. Orano, anciennement Areva.
Anciennement Kojima.
Oui, de toute façon, on tourne toujours entre trois noms. C'était juste pour vous dire quand même que il y a un débat de très haute importance qui va bientôt statuer sur la fin du nucléaire, qui s'appelle le plan de gestion des matières et déchets radioactifs, qui se termine fin septembre. Attention.
Et régulièrement écouter la chronique nucléaire du Canu Info pour devenir très très brillant au Scrabble avec vos nouveaux mots.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde, on évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste.
Les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et ouais, dans la rubrique internationale, on parle de quoi ? On parle de la Grèce. Je ne sais pas pourquoi je prends un ton hyper enthousiaste, parce qu'en fait, c'est assez moche que je vais raconter. Du coup, eh ben, on parle de Grèce, parce que vous n'êtes pas sans savoir que, eh ben, en Grèce, il y a un nouveau gouvernement qui a été élu début juillet, et figurez-vous, ce n'est pas complètement des camarades, voire pas du tout. Et du coup, une des promesses de campagne de ce gouvernement, c'était le nettoyage du quartier d'Exarchia en Grèce, du coup, à Athènes. Et du coup, le quartier connu des anarchistes et autres extrémistes et anti-autoritaires de tous bords. Enfin, non, mais pas du tout, je dis n'importe quoi. Bon, c'est un quartier d'Athènes qui est plutôt un quartier un peu, voilà, c'est ce qu'on appellerait le quartier un peu alternatif d'Athènes, où il y a eu y a un certain nombre de squats, il y a un certain nombre de mouvements sociaux qui partent de là depuis très longtemps, depuis le 19e siècle, dans ce quartier. Et du coup, il y a eu au 19e siècle, après, contre la dictature. Et ensuite, eh ben, notamment la plus près de nous, en 2008, les grandes manifs suite au meurtre par un policier d'Alexis Grikopoulos. Ce quartier, du coup, est un quartier dans lequel la police est plutôt pas la bienvenue, dans lequel il y a un certain nombre de squats, et notamment beaucoup de migrants et de migrantes qui, se réfugient dans ces squats-là. Et il y a, du coup, effectivement, un certain nombre d'organisations politiques, plus ou moins légales et plus ou moins affichées, qui utilisent ce lieu comme un lieu de rassemblement, de vie et puis de création d'autres choses. C'est un petit peu l'ennemi désigné par le nouveau Premier ministre et le gouvernement grec. Et du coup, il y a eu le 26 août 4 squats qui ont été expulsés. C'est un petit peu le début de l'attaque contre la vie plus ou moins autonome à Exarchia. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir un plan général, un petit peu de reprendre le pouvoir sur ce quartier, avec à la fin la construction d'une station de métro, mais du coup, sur la route, il faut expulser les squats, il faut expulser les réfugiés, il faut pouvoir permettre aux flics de rentrer dans les archias et policer, nettoyer le quartier. Parce qu'il y a d'un côté l'action de la police de virer les squats et compagnie, mais il y a aussi, en fait, une force d'intervention spéciale qui a été formée à partir des différents services de l'administration municipale, du coup, de la propreté, de l'environnement et puis les infrastructures publiques et tout. Donc l'idée, c'est d'effacer les graffitis, d'enlever les affiches, de remettre des belles vitrines, de un petit peu gentrifier ce quartier, de mettre des lampadaires intelligents, etc., etc. Ce qui s'est passé le 26 août, c'est qu'il y a eu l'expulsion de 4 squats qui étaient majoritairement occupés par des personnes migrantes. C'était le squat qui s'appelait Spio. Je dis le nom, mais voilà. Il y avait 4 squats. Il y en avait un qui s'appelait Spirou Tricoupi, il y en a un qui s'appelait Transito, il y en a un qui s'appelait Rosa des Phoques, et il y en a un qui s'appelait Gare. Et donc, très clairement, c'est 143 personnes des deux bâtiments des premiers, du coup, Spirou Tricoupi et Transito, qui ont été arrêtés et qui ont été emmenés. Alors, arrêtés, donc on a niqué leurs affaires, on a vidé leur lieu de vie et compagnie, mais surtout on les a emmenés derrière au bureau de la police de l'immigration, pour vérifier, du coup, si elles avaient un droit au séjour. Et a priori, si elles habitent dans un squat, elles n'avaient sûrement pas trop de droit au séjour. Du coup, c'est pas impossible qu'elles soient expulsées derrière. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Et alors, par ailleurs, il y a aussi, les deux autres squats, il y en avait un qui était complètement vide. Et il y en a un autre où il y a juste 3 personnes qui ont été arrêtées et emmenées à la police, mais là plutôt la police normale, pas la police de l'immigration. Cette première offensive est maintenant terminée. Là, c'était juste sur la partie nord-ouest d'Exarchia, où c'était juste, en fait, des squats de personnes migrantes. Et du coup, c'était pas forcément les endroits les plus gardés, où il y avait le plus de mobilisation autour. C'était plutôt simple, entre guillemets, pour le pouvoir d'expulser ces squats-là. On ne sait pas ce qui va se passer pour les autres squats derrière. Il y a eu une tentative d'expulser un autre squat qui s'appelait un autre squat. 3 jours après, Spocky, Scotty, Sochi, quelque chose comme ça, qui lui était un squat, au contraire, beaucoup plus politique, avec beaucoup plus de militants et de militantes dedans. Et là, il y a une trentaine de personnes, les flics sont arrivés pour essayer de virer le squat. Et il y a une trentaine de personnes qui les ont repoussés à coups de Molotov. Et du coup, les flics se sont barrés, bien gentiment. Du coup, faut voir. Enfin, voilà. Il y a une grosse attaque contre les archers en ce moment. Mais les flics n'ont pas encore gagné. Pour autant, le chef des flics, enfin c'est vice-président de la fédération panhellénique des employés de la police, plus ou moins le chef des flics. Il s'appelle Stavros Balaskas, et alors lui, il répondait du coup à une interview sur à la télévision le lundi soir suite à l'expulsion, et il explique donc que c'est super cette opération, parce qu'il y a un aspirateur électrique silencieux de nouvelle technologie qui a été mis en marche, c'est-à-dire, vous aurez compris, la police, qui va graduellement absorber toutes les ordures d'exarchia. Donc voilà, super sympa. Et du coup, le journaliste lui dit quand même, vous êtes sûr que vous pouvez dire les ordures quand même? Voilà, on parle de gens quand même. Et le mec répond, eh ben alors on peut pas dire que les ordures ce soit les migrants et migrantes. Alors lui il a dit les migrants. Mais les migrants, c'est seulement une poussière qui pourrait avoir un caractère gênant. Ah. Donc on lui a donné une porte de sortie, mais le mec, non, pas tout de suite, il continue. Et donc, on veut dire que les vraies ordures qui se trouvent dans les 10 autres squats d'Exarchia seront également évacuées prochainement. Et donc, dans ces squats se trouvent de durs criminels, des anarchistes extrémistes et des gens d'extrême gauche. Donc voilà, c'est pas la grosse ambiance à Exarchia, mais... Face à cette attaque policière, il y a un certain nombre d'actions de solidarité qui ont eu lieu. D'abord, j'en ai quelques-unes en France ou en Allemagne. Du coup, il y a à Nantes, il y a pas mal de consulats de Grèce, que ce soit à Nantes, à Munich. À Munich, le consulat de Grèce, il a été attaqué une première fois le 3 septembre et une deuxième fois le 11 septembre. Du coup, c'est, voilà. Prend un peu cher, la même chose à l'ambassade grecque aux USA, et il y a quand même un gros appel à manifestation contre la répression de l'État le 14 septembre à Athènes, du coup, pour défendre Exarchia, c'est demain le 14 septembre, voilà, du coup, si vous avez de prendre un billet d'avion pour foncer en Grèce, c'est maintenant.
Et du coup, moi, je vous parle encore de un peu de trucs un peu dégueulasses qui se passent en Europe. Et parce que tout récemment, il y a une nouvelle commission européenne qui a été créée et sa présidente vient de nommer un commissaire pour la protection du style de vie européenne, qui est le grec Margaritis Chinas. Et son mandat, bien évidemment, sera en partie lié à la gestion de l'immigration. Et en plus, il sera aussi l'un des 8 vice-présidents. Du coup, pour comprendre un peu tout cela... Tout rapidement, un petit cours d'institutions européennes. La Commission européenne est l'une des principales institutions de l'Union européenne, qui est un peu, qui a la fonction principale de proposition législative et de mise en œuvre des politiques communautaires. Du coup, elle a un gros rôle. Elle est composée d'un commissaire européen par chaque État membre. Du coup, il y a 28 commissaires qui sont proposés par les chefs d'État ou de gouvernement des États membres. Du coup, vraiment, voilà, ils sont choisis par les gouvernements de chaque État. Du coup, en gros, un gouvernement de droite va choisir un commissaire de droite. Voilà, un peu comme ça, sur cet équilibre-là. Voilà. Et après, cette commission, elle est approuvée par le Parlement européen. Et elle est renouvelée tous les 5 ans. Du coup, c'est maintenant que ça se passe. Et voilà qu'apparaît un portefeuille baptisé « Protection de notre mode de vie européen ».« European way of life ». Et du coup, y a beaucoup de polémiques, heureusement, autour de ça. Cette annonce qui a été faite le 10 septembre, ça nous fait beaucoup penser, d'abord, au tristement célèbre ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale, créé en 2007 par le gouvernement Fillon sous Sarkozy et supprimé en novembre 2010, ça c'était en France. Mais en même temps, ce qui se passe en Allemagne, c'est-à-dire l'année dernière, nom du ministère de l'Intérieur allemand a été rebaptisé Heimat, sous la pression de la droite. Et ce terme difficile à traduire renvoie à la fois à l'identité nationale et à l'attachement au territoire. Du coup, que se cache derrière les mots « protection du mode de vie européen » selon les interlocuteurs, un peu tout, n'importe quoi. Du coup, la présidente de la Commission, elle en parle dans son programme pour l'Europe. Et en gros, elle parle de respect de l'état de droit, sécurité intérieure, politique migratoire, valeurs, et en lisant les valeurs fondamentales, elle cite dans l'ordre l'égalité, la tolérance et l'équité sociale. Ça, c'est typique du mode de vie européen pour Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Mais en fait, si on demande à d'autres, par exemple, le Bavarois Manfred Weber, qui interpellait en 2017 le président de la commission d'alors, Monsieur Juncker, et ben lui, il disait « Beaucoup de gens ont peur quand ils voient les images de migrants clandestins arrivant en masse à nos frontières extérieures. Le mode de vie européen, c'est aider les gens dans le besoin. Mais c'est également protéger fermement nos frontières contre les migrants clandestins et les trafiquants d'êtres humains. » Voilà, tolérance, égalité, protection des frontières, un programme bien cohérent. En gros, chacun y met ce qu'il et elle veut derrière ce concept. Et peut-être, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un concept complètement vide de sens au service de la rhétorique xénophobe. Et qu'un mode de vie européen n'existe pas, peut-être. Parce que faudrait-il protéger? Quelle identité mode de vie aurait en commun tous et toutes les européennes? En fait, le fait de parler d'un mode de vie commun permet d'effacer l'existence de minorités ethniques, politiques, religieuses, sexuelles en faveur d'une unique identité dominante et de dépolitiser les luttes sociales internes. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard que le commissaire en question soit un homme blanc, riche, de droite, hétérosexuel. Et on imagine qu'il soit chrétien, mais on n'était pas sûr. Voilà. De plus, comme le rappelle un article de Mediapart, les mots sont importants. Du coup, quand on parle de protéger, c'est qu'il y a une menace ou un danger et que là, on évoque inévitablement les personnes venues d'ailleurs, les personnes migrantes, qui seraient un danger pour tous les Européens et Européennes. Du coup, on retrouve tous les éléments d'une rhétorique xénophobe et populiste et que d'ailleurs, on retrouve dans plein de gouvernements européens comme par hasard et qui est complètement assumé dans ce cas-là. Du coup, juste pour dire que peut-être ce mot va changer pour trouver le consensus dans le Parlement européen, mais que ça nous donne bien un avant-goût de cette nouvelle Commission européenne et ça nous fait bien vomir.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Mathieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ACAB ?
Radio Canu. Canu Info du vendredi.
Eh ben, alors ce soir dans le Canu Info du vendredi, on vous donne des ACAB, mais on n'en a pas trop. Alors on va vous dire des mots qui commencent par A, des mots qui commencent par C, des mots qui commencent par B, et puis vous vous démerderez avec ça. Donc on avait attroupement, on avait cellule, on avait Balkany, on avait chronopost, on avait anéantir, et on avait à nouveau Balkany. Donc on a quand même plusieurs fois Balkany. Voilà. Et alors, le Canu Info du vendredi, c'est fini. Ça recommence la semaine prochaine. Et tout de suite, c'est Noise Pollution. Et on rappelle, paniquez pas, niquez tout.